Avant de donner la parole justement à un membre d'un duo présent dans l'exposition, on a une question. Vous souhaitiez prendre la parole?
Et je voulais juste faire préciser de votre part cette notion de femme occidentale. Est-ce que une femme occidentale peut être donc occidentale et racisée? Ou non? Voilà, la bien question sûr. C'est vraiment...
Oui. Mais ça se pense évidemment aussi, bien sûr. On peut être occidental et racisé, bien évidemment, puisque c'est la réalité sociologique telle que nous la vivons. Donc là aussi, la démarche est la même, c'est-à-dire qu'elle consiste à ne pas être attentive, à ne pas perpétuer l'invisibilisation de ces femmes et à ne pas être aveugle justement aux modalités très spécifiques dans lesquelles elles éprouvent leur condition de femmes occidentales racisées. Bien sûr.
Il y a Clovis, peut-être, qu'on alterne. Clovis, qui est affilié à l'intervention de Camille Froide-Bométrique. Clovis, tu es par
Bonjour.
Là.
Bonjour. Voilà. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, merci. Merci beaucoup déjà pour cette intervention qui était tout à fait passionnante et d'une grande clarté. J'avais juste une petite remarque et une question comme ça, en précisant que moi je suis artiste, je participe à l'exposition, mais je suis aussi médiéviste et donc je connais une société qui est à la fois occidentale mais avec une autre épistémée que celle qui est celle de la modernité. Donc la première remarque c'était merci, enfin voilà, d'avoir ajouté, je crois, cette remarque sur l'inclusion des femmes trans dans cette question de du corps féminin. Je voulais juste faire une remarque sur le fait qu'il y a vraiment tout intérêt à problématiser aussi l'inclusion du corps des hommes trans qui pose tout un tas de problèmes à inclure dans la question gynécologique et puis politiquement dans l'exclusion qu'ils ont d'un certain nombre de... voilà, d'opérations gynécologiques, de difficultés en fait à penser qu'est-ce que c'est que le corps d'un homme qui a un utérus par exemple. Et ma question c'était plutôt sur ce que vous avez dit sur des manières de repenser le féminisme essentialiste et différentialiste, pour prendre un petit peu les gros mots. Je trouve très intéressant qu'actuellement soit beaucoup repensé en fait des autrices comme Lucie Rigaret, Hélène Cixous, dans une perspective qui articule en fait leur pensée du corps avec des dimensions extracorporelles, le corps des animaux, le corps des plantes, le corps de la planète en quelque sorte. Je pensais par exemple à Astrid Neimanis qui a écrit Bodies of Water à partir véritablement d'une lecture d'Irigaray et d'Hélène Cixous pour les articuler avec la pensée écoféministe. Et donc ma question c'est vraiment sur l'écoféminisme, le rapport entre corps des plantes, corps des animaux et qu'est-ce qu'on en dit de ces questions-là dans le domaine philosophique qui est peut-être davantage le vôtre.
Merci beaucoup. Cette question des hommes trans, elle est importante et très honnêtement, c'est encore un point de butée pour moi. C'est-à-dire, j'ai passé un certain temps à essayer de démêler la question des femmes trans et du corps féminin trans, mais effectivement, c'est impossible de ne pas aborder également cette problématique des hommes trans. Il y a deux, trois sujets comme ça dans mon travail qui sont des sujets que je laisse en suspens parce que tant que je n'ai pas réussi à produire une analyse à laquelle j'adhère suffisamment, avec suffisamment de conviction, je laisse ces questions, en tout cas non publiques. C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas me lancer aujourd'hui dans une proposition par rapport à ce problème que vous souleviez. En revanche, peut-être, si vous l'acceptez, je serais très intéressée d'avoir une discussion avec vous pour éventuellement creuser et aider peut-être aussi à y voir un peu plus clair. Et je vais rebondir ensuite, non pas tellement sur la question de l'écoféminisme, parce que c'est pas mon berceau féministe originel, puisque, bon, comme je l'ai expliqué, c'est plutôt la démarche qui est plus dans le féminisme phénoménologique. Mais je vais réagir sur cette question, vous évoquiez Bodies of Water, la question de la fluidité, qui est un thème qui est important dans le féminisme différentialiste, Rigaray, Cixous, etc. Parmi les choses qui nous parlent de la façon la plus frappante, relativement à ce qu'on peut peut-être observer, et donc là c'était au travers de l'enquête sur les seins des femmes, c'est la dimension toujours mouvante et changeante des corps féminins. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fluidité, du changement, du jamais définitif. Et donc aussi, ça peut être interprété en termes de fragilité, mais aussi en termes de force, c'est-à-dire en termes d'adaptabilité. Le fait que le corps des femmes ne soit jamais le même, alors évidemment jamais le même au cours des âges de la vie, mais aussi au cours des cycles mensuels, mais aussi pratiquement dans une même journée. Et le fait, par exemple, de travailler sur un organe spécifique, celui des seins, ça permet de… Il y a une expression de Iris Marion Young que j'aime beaucoup. Elle a observé une communauté lesbienne californienne dans laquelle les femmes vivaient non seulement en non-mixité, mais aussi torse nu. Et elle s'est immergée dans cette communauté et elle en est ressortie avec cette idée que pour ces femmes-là, les seins étaient comme des visages. Et l'idée que les seins soient comme des visages, c'est l'idée qu'en fait, la corporité féminine, dans sa globalité, est expressive et singulière et subjective. Et dans ce qu'elle a aussi de fluide, c'est-à-dire de jamais fixe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait en vis-à-vis de la constance masculine et de la solidité masculine. Et cette fluidité, je crois que c'est quelque chose qui fait le lien avec ce que vous évoquiez, avec le vivant, avec la nature, avec les animaux, c'est-à-dire l'idée d'une non-constance et d'une impossibilité, disons, d'enfermer, de catégoriser, alors, qui se traduit justement par le mouvement quasi inverse, enfin, qui est celui de la domination, pour justement maintenir ce qui échappe, maintenir le fluide, ce qui est hors de la prise, et tenter précisément de contenir cette fluidité vivante et de en la matant, en la transformant, en l'empêchant, en la limitant, etc. Alors voilà, ça c'est une idée que je creuse en ce moment, qui me semble intéressante de la fluidité, et qu'il faut que je relie. Mais je dis il faut que, parce qu'une fois encore, c'est pas un a priori dans ma démarche, mais c'est quelque chose que je suis en train d'explorer, de découvrir même aujourd'hui, même j'allais dire aujourd'hui là ici, même avec vous.